Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Les patineurs belges n'en finissent plus de ramener des médailles. Dans leur discipline, Bart Swings, Steyn ou Anne de Smet ont ramené de l'or, de l'argent et du bronze des championnats d'Europe. On verra comment la Belgique est devenue une terre de sport de glisse. Mais avant ça, le Royaume-Uni va envoyer des chars d'assaut lourds en Ukraine. On se demande si et comment cela pourrait changer le cours des combats. Nous sommes le mardi 17 janvier, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
La guerre entre la Russie et l'Ukraine a été marquée ce week-end par une frappe russe sur un immeuble résidentiel dans la ville de Dnipro. Le dernier bilan fait état de 40 morts. L'Union européenne dénonce un crime de guerre. L'OTAN, de son côté, annonce que l'Ukraine va recevoir de nouveaux armements lourds, notamment des chars d'assaut britanniques. Est-ce que c'est un nouveau tournant dans ce conflit qui dure depuis presque un an ? À quoi doit-on s'attendre de la part de Vladimir Poutine ? Pour répondre à toutes ces questions, Camille Petout a contacté le général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC Paris, ancien directeur de l'école de guerre.
Bonjour général Vincent Desportes.
Bonjour.
Ce week-end a été marqué par une frappe russe particulièrement violente sur la ville de Dnipro en Ukraine. Cette frappe est-elle le symbole d'une escalade significative des violences dans cette guerre de la Russie contre l'Ukraine ?
Hélas, elle n'est pas une escalade, elle est un acte barbare d'une grande violence, mais elle correspond à la stratégie de Vladimir Poutine. On sait ce qu'elle est. Pour l'instant, l'armée russe est embourbée sur la ligne de front sur laquelle elle est arrêtée maintenant depuis presque 4 mois. Ne pouvant pas gagner au niveau tactique, elle cherche à gagner au niveau stratégique et son objectif stratégique est de viser l'effondrement de la population ukrainienne. La Russie veut obtenir cela par les frappes sur les populations civiles. Je rappelle que cette stratégie a été théorisée depuis longtemps, depuis le début du XXe siècle, par l'Italien Giulio Due, qu'elle a été utilisée par les Allemands, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur Coventry ou sur Londres. Elle a utilisé les Américains qui vont détruire Hambourg, par les Anglais qui détruisent Dresde. Mais nous, les Occidentaux, considérons désormais, bien sûr, que ce genre de comportement est inacceptable et d'ailleurs le droit de la guerre interdit aujourd'hui les frappes sur les populations civiles. Mais c'est bien la stratégie de Poutine, frapper les populations civiles, casser l'arrière. Quand il n'y a plus d'arrière, le front ne peut plus tenir.
On en a eu un exemple ce week-end, le missile qui a été utilisé est une arme disproportionnée pour la cible qui a été visée.
L'arme n'est pas disproportionnée puisqu'il s'agit de faire des victimes, de semer la terreur et de casser la violence. La violence déployée par les Russes n'a pas de limite à partir du moment où elle ne s'exerce pas en dehors du territoire de l'Ukraine de manière à ne pas frapper un pays appartenant à l'OTAN, mais elle est proportionnée, elle est disproportionnée par rapport à la cible si vous voulez, mais elle est parfaitement proportionnée dans la stratégie barbare des Russes.
Du côté européen aussi, on voit une évolution avec le type d'armement fourni à l'Ukraine. L'Angleterre et la Pologne ont sauté le pas.
Rappelons d'abord que des chars ont été livrés, mais des chars de conception soviétique. Donc on parle là de chars modernes, de conception occidentale. Eh bien, la France a franchi le pas et l'Angleterre, ne voulant pas être en reste, a emboîté le pas en envoyant des chars à chenilles, donc les Challenger et la Pologne également.
Est-ce que cela va changer la nature de cette guerre ?
Oui et non. Pour que cela change la nature de la guerre, il faudrait que les Ukrainiens aient 200, 300 chars. Quelques chars ne vont pas changer, mais on est dans un mouvement vers l'avant qui est sain puisqu'il est absolument clair qu'il faut confronter la Russie à une possible, voire probable défaite sur le terrain.
Pour les Occidentaux, on a vu qu'on peut être réticent et rester prudent face à la Russie dans la livraison d'armes. Où se trouve la limite entre cette prudence et en même temps cette prudence qui tend à rendre l'armée ukrainienne moins moderne, moins rapidement ?
Il faut se rappeler que cette guerre est conduite sous menace nucléaire permanente. Il faut donc être à la fois absolument ferme et à la fois, je dirais, responsable. Mais l'important est de pousser petit à petit la Russie à la défaite. Par contre, il ne faut pas l'acculer rapidement ou à un tir à user de l'arme nucléaire, ce qui serait évidemment encore plus préjudiciable à l'Ukraine. Donc il faut une montée en puissance. Si cette montée en puissance est progressive, ce qu'elle est, alors quelque part, pied à pied, on augmente la qualité et le nombre d'armements. Vous savez bien que celui qui déterminera le seuil de l'intolérable, c'est le président Poutine. Et on voit qu'avançant pas à pas, et je dirais de manière raisonnable, finalement la Russie est en train de reculer et de ne jamais considérer que l'Occident est en co-belligérance. Cette démarche des pas progressifs me paraît la plus raisonnable, mais bien sûr, il faudra continuer à armer les Ukrainiens jusqu'à avoir acculé la Russie à la certitude de la défaite sur le plan militaire.
Comment se positionne l'Allemagne par rapport à cette fourniture d'armes, notamment avec son passé particulier ?
L'Allemagne est dans une position particulière. Il y a d'abord des rapports entre l'Allemagne et la Russie qui ne sont pas du tout les mêmes, par exemple, que la Pologne, les Pays-Baltes et la Russie, avec d'ailleurs une proximité, je dirais, intellectuelle et culturelle assez importante. Mais au-delà de ça, les Allemands ont évidemment un très mauvais souvenir de ce qu'ont fait leurs chars quand ils ont été déployés en Ukraine pour la dernière fois, c'est-à-dire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on comprend la réticence des Allemands à renvoyer des chars de fabrication allemande sur une terre que les Allemands eux-mêmes ont particulièrement fait souffrir.
Et finalement, après la livraison de ces armes plus importantes par l'Europe, à quoi doit-on s'attendre de la part de Vladimir Poutine ? Est-ce qu'il a des limites à son arsenal ?
Eh bien, je pense qu'il en a moins que nous ne le pensions au départ. Nous avons tous dit qu'il a 3000 missiles, après il n'en aura plus, etc. On voit qu'au fond, il continue. N'oublions pas que ce pays est gigantesque, que pour l'instant, aucune des usines d'armement n'a été frappée et que la Russie peut manquer de pièces de rechange ou de processeurs, etc. Mais pour l'instant, elle produit. Pour donner un exemple, l'armée, l'Allemagne, qui a été frappée extrêmement durement à partir de 1942 par les bombardements alliés, a vu son industrie d'armement continuer à produire de l'armement jusqu'en 1945 avec une progression croissante. On voit donc qu'un pays en guerre peut continuer à produire. L'autre exemple intéressant est bien sûr l'exemple des États-Unis. Il faut rappeler que les États-Unis, quand ils rentrent dans la guerre ou avant d'y rentrer, n'ont une armée que de 300 000 hommes. Face à une armée allemande qui était de 6 millions, et qu'ils vont mettre leur industrie, ils vont transformer totalement leur industrie pour produire une armée, et leur armée fera 14 millions d'hommes parfaitement entraînés, équipés, trois ans après. On voit donc que si un pays passe en économie de guerre et se concentre sur la production d'armement, eh bien, il peut tenir sûrement longtemps.
Est-ce que vous pensez qu'on puisse sortir de ce conflit un jour, peut-être dans un futur proche ?
La guerre n'a aucun sens si on n'en sort pas. Le but de la guerre n'est pas la guerre, le but de la guerre, c'est la paix qui la suit. Et on ne peut mener correctement une guerre que si on a défini la paix à laquelle on veut parvenir. Il y a donc cette absolue obligation qui, pour l'instant, semble oubliée, de définir, de vouloir la paix vers laquelle on veut aller. Et se rappeler que pour sortir de la guerre, il faut créer les conditions de la sortie. Il faut qu'il y ait des incitations positives et des incitations négatives. L'incitation négative, c'est évidemment le coup extrêmement fort. Il faut faire comprendre que sur le terrain, seule la défaite est possible. Donc aujourd'hui, nous devons à la fois porter un coup le plus dur possible aux armées russes, l'acculer au recul, mais en même temps être capable nous-mêmes de concevoir un projet de paix qui serait à la fois acceptable pour l'Occident et pour l'Ukraine, évidemment en parlant de l'Ukraine, mais acceptable pour la Russie. Un chien enragé qui est acculé n'a que deux possibilités, soit attaquer, soit fuir. Là, il ne pourra plus attaquer et il ne peut pas fuir. Il faut lui donner une porte de sortie. C'est à nous de la concevoir. Et c'est à nous de concevoir également le système global de sécurité que nous mettrons en place à la fin de cette guerre, puisque le système actuel, bâti en 1945 à la conférence de San Francisco, s'est effondré dans cette guerre. Et ce projet doit être profondément européen. L'Europe doit être un acteur géopolitique, penser la paix, penser son futur, de manière à ne se laisser imposer par personne un projet de paix, un projet d'architecture de sécurité qui ne serait pas les siens.
Mais est-ce que dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui peut être réaliste dans un futur proche ?
La question n'est pas de savoir si c'est réaliste, c'est indispensable. C'est indispensable. Nous n'irons pas faire la guerre au Kremlin. Il faut donc que la Russie, à un moment donné, se dise « oui, je vais perdre, je suis en train de perdre ». Mais derrière, on me propose quelque chose que je peux accepter. Cette guerre va continuer à durer des années et produire des centaines de milliers de morts si on ne trouve pas une solution pour qu'on en sorte. Donc c'est bien aux alliés américains, européens et ukrainiens de concevoir quelque chose qui puisse être proposé à la Russie, pays avec lequel nous devrons vivre. La Russie ne va pas partir ni en Inde, ni en Thaïlande. Elle sera là. Demain, quoi qu'il arrive, nous devrons vivre avec la Russie. À nous de concevoir un système de paix acceptable par toutes les parties. À nous de concevoir une façon de vivre avec la Russie. La Russie restera notre voisin éternellement.
Merci beaucoup, Général, pour vos explications. Je rappelle que votre livre intitulé « Devenez leader » aux éditions Odile Jacob est disponible en librairie depuis le 4 janvier dernier.
Un week-end historique pour le sport belge. Pour une fois, on ne parle pas cyclisme, hockey ou football, mais bien patinage. Stijn et Anne de Smet sont frères et sœurs, tous les deux patineurs de vitesse. Ce week-end, ils couraient l'Euro sur distance courte. Ils ont tous les deux ramené des médailles d'or et d'argent en individuel, une médaille d'argent en relais mixte. La semaine dernière, c'est Bart Swings qui ramenait une médaille de bronze de l'Euro toute distance. Alors comment est-on devenu une nation phare des sports de glisse ? On a posé la question à Philippe Van de Weyer du Service Sport.
Bonjour Philippe.
Bonjour Pierre.
Une petite précision, les médailles de Stijn et Anne de Smet, c'est en short track, celle de Bart Swings en all around. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide topo du patinage de vitesse ?
Alors, vous avez le patinage de vitesse que pratique Bart Swings, qui est le patinage de vitesse sur piste longue, qui se pratique sur une piste de 400 mètres. Et puis, vous avez le patinage de piste courte, en anglais le short track, qui, lui, se pratique sur une piste dont la longueur est de 111 mètres 12, très précisément. Et donc, l'avantage de ce sport-là, c'est qu'il peut se pratiquer dans n'importe quelle patinoire normale. Et donc, en Belgique, du côté flamand essentiellement, il y a 5 clubs où on pratique le short track. La différence aussi, c'est la vitesse, évidemment, sur les pistes courtes. On va évidemment beaucoup plus vite, puisqu'il y a des vitesses de pointe de 55-60 km/h. C'est très, très spectaculaire. Il y a plus de chutes, beaucoup plus de chutes qu'en patinage sur piste longue, avec parfois des accidents graves, des blessures importantes, puisque les lames aussi des patineurs sont ultra, ultra taillées. Et donc, il faut faire évidemment très, très attention quand on sort de piste.
Comment ça se fait que la Belgique est devenue performante dans ce type de sport ? On a déjà eu des athlètes dans l'histoire, mais on n'a jamais été aussi fort que maintenant en patinage de vitesse.
Non, effectivement, on est entré assez vite dans le short track à partir du moment où la discipline est devenue olympique. Aux Jeux olympiques d'Albertville en 1992, on avait déjà des sélectionnés à l'époque, dont les sœurs Pintens, qui étaient les filles d'un ancien cycliste, George Pintens. Et puis, voilà, donc ici, effectivement, on a une génération assez étonnante avec ses deux frères et sœurs, Stijn et Anne de Smet. Bon, il y a du talent, effectivement, mais il y a aussi un soutien de plus en plus important de la communauté flamande, puisque tous ces patineurs proviennent du nord du pays. Et le Sportlanderen, qui est l'équivalent flamand de l'ADEPS, a sauté sur l'occasion. Et aujourd'hui, il y a 6,5% de son budget réservé aux sports de haut niveau, hors les contrats d'athlètes, qui va à ces sports d'hiver et essentiellement donc au patinage, que ce soit le patinage de vitesse ou aussi le patinage artistique, puisque nous avons aussi avec Luna Hendricks, une patineuse de tout premier plan, qui est vice-championne du monde en titre, qui a fait 8e aux Jeux olympiques l'an dernier et qui, la semaine prochaine, sera l'une des grandes favorites pour le titre européen.
Ça a été réfléchi comment du côté de Sport Vlaanderen? Ils se sont dit, on a des sportifs potentiellement d'exception comme Stijn et Anne de Smet, donc on investit dans ce sport-là? Ou au contraire, ils se sont dit, bon, dans quel sport est-ce qu'on peut être facilement performant? On met tout sur le patinage de vitesse et il y aura bien un ou deux athlètes qui vont sortir. Ça marche dans quel sens?
Non, je crois qu'il faut d'abord des athlètes de premier plan. Bart Swings, il est arrivé là un petit peu par hasard. C'était au départ un patineur à roulettes qui était un peu frustré parce que son sport n'était pas olympique. Il voulait absolument aller aux Jeux. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Je vais me diriger vers le patinage de vitesse. Et donc, je crois que la politique de la communauté flamande, c'est de bien utiliser leur argent sur des athlètes de talent, mais aussi avec des fédérations qui ont un programme de développement et qui ont un vrai plan pour permettre à leurs athlètes d'arriver au plus haut niveau. Et donc ici, tant Bart Swings que les De Smet vivent par exemple aux Pays-Bas, en Frise, qui est un peu le centre névralgique du patinage aux Pays-Bas, et s'entraînent. Bon, Bart Swings, il est dans une équipe professionnelle, un peu comme dans une équipe cycliste. Les De Smet, eux, s'entraînent carrément avec l'équipe nationale néerlandaise. Ils font partie du même groupe. Leur entraîneur fait partie du groupe des entraîneurs qui parfois s'occupe aussi des Hollandais. Et donc, dans les grandes compétitions, ils affrontent généralement leurs coéquipiers.
Merci beaucoup, Philippe.
Avec plaisir.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain.